Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
François Pinet, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On va se régaler pendant 2 heures. Eh oui, on finit cette magnifique semaine européenne, du moins magnifique. On a eu une défaite hier du Racing Club de Strasbourg, mais on est toujours les étoiles plein les yeux avec cette deuxième finale consécutive du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Magnifique, eh ben, ça tombe bien, on va encore en parler et on va pas s'arrêter d'en parler jusqu'au 30 mai à Budapest. On est avec une magnifique équipe. Voilà, le ciel bleu est revenu avec François Pinet. Salut François.
Salut Jérôme, salut à tous.
Salut François.
Bah, ça va très bien. Écoute, Benoît me laisse une petite journée, voilà, pour...
Tu grappilles.
Bah, t'as vu, hein.
Ouais.
Je t'ai demandé à être augmenté, moi,
ça
bientôt.
Commence comme ça. On a plein qui l'ont fait comme ça. Bravo, François. Bravo. On est avec notre champion du monde, Christophe Dugarry. Salut, Dugas.
Salut, Jérôme.
Salut, Dugas.
Salut, François. Bonsoir à tous, les amis. Salut.
Bon, Dugas, on est bien accompagné. On est avec un gardien international. C'est Benoît Costil. Salut, Benoît.
Salut Jérôme, salut tout le monde. Salut, je tiens à préciser que c'est pas moi qui a autorisé François à prendre l'émission ce soir.
Ah bon?
Non, c'est pas moi. Moi je t'augmenterai de suite.
Ah merci.
Il n'a pas précisé quel Benoît.
Ah ben non, oui, ça. Je parlais de Benoît Boutron, bien sûr, voilà. Qui a besoin de repos, lui, au bout de 4 jours. Voilà, c'est pour ça. Il y a eu beaucoup d'émotions en même temps cette semaine, c'est pour ça.
Oui, c'est vrai qu'il a eu du mal à.
Je pense qu'il a passé à.
À garder ses larmes. Non, mais voilà. On l'a vu.
On l'a vu
en pleurs, Dugas et Benoît, c'était incroyable. Ouais, c'était bon. Beaucoup d'émotions. Bah, on peut comprendre. Et il est à la recherche. Alors, si vous avez des places à lui offrir pour Budapest, parce qu'il veut absolument y aller.
Voilà, des places pour Benoît Boutron, opération Roten sans flamme, c'est parti. Le vendredi aussi c'est multi, vous le savez bien sûr, avant-dernière journée de Ligue 1, donc on va se régaler, il y a des enjeux énormes. Multiplex pour Jérôme, avec pour la course à la Ligue des Champions, on ira à Lens qui joue ce soir face à Nantes.
Gibault alors.
On aura Gibault, ouais. Exactement, on ira à Lyon aussi.
Édouard
Jay, bien sûr. Et puis on parlera de Monaco qui n'a pas perdu tous les espoirs.
Maxime
Tilliette aussi pour parler de Nice qui joue un match décisif face à Auxerre dans la lutte pour le maintien.
On a perdu Fraté. Flo Germain.
Ouais, voilà. Ouais. Mais on parlera quand même de l'Olympique de Marseille parce que il y a eu une semaine de mise au vert à la commanderie et on vous fera écouter Habib Bey à partir de 19h justement.
Ah ouais.
Après cette mise au vert,
apparemment il
croit encore à l'Europe. Ouais, il n'était pas au top, Habib Bey.
Hein,
on reviendra aussi sur l'élimination de Strasbourg, tu l'as dit hier, en demi-finale de Conference League, procès du Racing accusé d'avoir raté sa saison. Ça sera dans 30 minutes. Et puis les dernières infos sur ce qui se passe dans le vestiaire du Real Madrid. On est à 2 jours du Classico face au Barça et il y a un nom qui revient sans cesse pour la saison prochaine pour mettre de l'ordre, celui de José Mourinho. On en parlera à 18h45 avec notre correspondant à Madrid. Et puis ce soir, on vous offre un vidéoprojecteur Acer 1520S Full HD. Facile à transporter, c'est compact. Vous pouvez voir les matchs comme ça où vous voulez. 32-16, touche 4, quiz au 7-32-16 si vous voulez jouer avec nous et gagner votre vidéoprojecteur. Mais d'abord, on va revenir évidemment sur cette nouvelle finale de Ligue des Champions grâce à un homme pour le PSG.
Je reviens te chercher.
Un bon leader motive son équipe à atteindre les sommets.
C'est une équipe fidèle, c'est une équipe fiable, c'est une équipe qui peut lutter tout le temps.
Parce qu'il y a, se met sur le pied droit.
La communication ouverte et transparente est essentielle.
Vous vous rappelez ce que je vous dis après la phase des groupes? Je ne vais aucune équipe meilleure que nous.
Dembélé qui laisse passer Kvaratskhelia.
Te chercher.
Un leader efficace prend le temps de comprendre les besoins et les idées de son équipe.
J'ai tellement confiance dans mon équipe que je pense que c'est important de valoriser.
Kvaratskhelia, il y a du monde en retrait. Dembélé,
doit incarner les valeurs et les comportements qu'il souhaite voir chez ses collaborateurs.
On a montré, comme d'habitude, quel type d'équipe nous sommes, quel type de joueurs nous avons.
C'est fini, Paris est en finale de la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive.
Et oui, Luis Enrique qui va
te chercher.
Vas-y, attends. Là, on offre ça quand même à tous nos auditeurs.
Tu m'attendais.
Magnifique. C'est incroyable, tu le fais bien, hein, tu le tiens bien. On va parler foot quand même. Luis Enrique va disputer la troisième finale de sa carrière de coach après donc la première avec le Barça remportée en 2015, celle avec le PSG la saison dernière. Il va donc jouer cette troisième finale à Budapest le 30 mai avec une équipe qui a montré plusieurs visages, hein, et notamment deux visages très différents contre le Bayern. C'est vraiment une qualification qui porte la patte de l'Espagnol. Est-ce qu'il vous bluffe encore? 32-16 pour nous rejoindre dès maintenant dans Rotten sans flamme. Et puis le WhatsApp RMC, vos messages 06 12 424 424. Juste avant de t'entendre, Jérôme, on va accueillir Fabrice Hawkins qui est avec nous. Fabrice, salut.
Salut à tous.
Ah, le faucon, il est là.
Il est là, il est arrivé, il s'est posé. Hop.
Salut Fabrice.
Luis Enrique, c'est le gardien du temple, hein, vraiment au PSG. Les joueurs le suivent les yeux fermés et ça se voit et ça s'est encore vu sur le terrain.
Effectivement, au fil des victoires, il a gagné le respect de tous les joueurs, mais aussi de ceux qui avaient pu avoir des réserves quand tout ne fonctionnait pas au début de sa première saison. Il y a 3 ans, Luis Enrique, c'est le respect incarné vraiment au club. On l'a entendu dans le générique. Il a prédit que le club et que le Paris Saint-Germain irait mieux après Kylian Mbappé. Il a prédit aussi que cette équipe serait plus performante cette saison. Et à chaque fois, il ne s'est pas trompé. Contre le Bayern Munich, il a encore livré un chef-d'œuvre. Le positionnement d'Ousmane Dembélé à droite, le marquage individuel, les dégagements en touche de Safonov sur les 6 mètres, il a souvent un temps d'avance et ça a encore profité au Paris Saint-Germain. C'est le meilleur entraîneur au monde, disait Nasser El Khelaifi à la suite de la qualification en finale de la Ligue des Champions, et c'est aussi pour ça qu'ils veulent prolonger le plus vite possible jusqu'en 2030. Les négociations sont en bonne voie. Celui qui fête son 56e anniversaire aujourd'hui a invité ses joueurs hier à dîner à Paris dans un restaurant parisien, donc, mais sans lui n'y était pas. L'art du contre-pied, oui. L'imprévisibilité, c'est aussi ça, Luis Enrique.
Ouais, ça, c'est un peu étonnant. Hein. On invite tout le monde, mais.
Excuse-moi,
on est pas...
Fabrice, c'est quoi cette info que les dégagements au pied, c'était
Ah, tu veux déjà qu'on rentre dans ce.
Dans
cette notion tactique.
Le plus grand, le plus fort, le plus beau, mais.
Ah, tu n'y crois pas?
Mais non, mais arrêtez de prendre. C'est une blague ou quoi?
Ah non, non, du gars, je t'assure, il avait pour consigne d'envoyer directement en touche pour mettre la pression. Là, un peu comme ils font, tu sais, quand ils engagent, le ballon,
ils le mettent directement en touche. Poteau de corner,
mais là, c'était. Voilà. Non, vraiment, c'était.
Non, mais moi, j'y crois pas une seule seconde. Alors, je te dis de suite, je n'y crois pas une seule seconde.
Écoute, t'as pas le droit de me croire. T'as pas le droit de pas me croire, mais moi, c'est pas quelque chose que j'invente. Ah, ben là, c'est révélateur, parce que je crois pas que tu me.
Qui te l'a dit, Fabrice?
Ben, je vais pas te donner mes sources comme ça.
Tellement systématique qu'on a pu se poser la question d'une, d'une consigne.
C'est ce qui est sûr.
Non,
c'est
mais il vise un côté, après qu'il soit maladroit.
Voilà, la consigne, c'est ce qu'il était visé.
Après, d'un mètre 4, 5, 6 d'affilée sur, en touche, et ça fait beaucoup quand même. Non, Christophe?
Ah non, mais moi j'y crois pas une seule seconde. Non, mais alors d'accord. Donc on passe le grand Luis Enrique et la tactique qu'il a, c'est d'envoyer les ballons en touche. Ah non, mais c'est super, mais qu'ils se mettent au rugby alors. Non, mais arrêtez de. Non, mais vous mettez la pression. Je veux bien qu'on mette la pression sur un côté pour embêter l'adversaire. Je veux bien, mais quel est l'intérêt de.
Après, il l'a tellement fait que, bon, voilà. Effectivement, non, peut-être mais, c'est non, aussi c'est, pour.
Mais il le fait aussi à l'engagement. Voilà. C'est pas quelque chose non plus qu'on a jamais vu.
Oui, quand il y a l'engagement de Vitinha.
C'est vrai que par rapport aux autres matchs où le PSG relance court à chaque fois, là, c'était une demande de Luis Enrique.
Mais ça
alors,
fait longtemps.
À l'aller et au retour. Hein.
Ouais. Ça fait longtemps, mais... ça, Jérôme, que ça a changé.
Oui, c'est vrai, t'as raison. Non, mais de toute façon, qu'il ait donné des consignes, moi, c'est vrai que ça peut paraître surprenant de jeter le ballon comme ça et de le rendre à l'adversaire. Mais comme le disait Benoît et même Fabrice, en effet, quand il va directement en touche 5, 6 fois, 7 fois, je me dis que c'est pas un problème de panard, quoi. C'est pas un problème de pied. C'est juste une consigne. Donc, en effet, peut-être que c'est le cas. Mais.
Ah non, moi, mais c'est pas peut-être. C'est
une certitude. Non, mais t'as raison. Non, mais Fabrice, je remets pas ta parole, tes infos en doute. Oui. Pas question.
Du gars, il a le droit de remettre. Je suis pas toujours d'accord avec ses amis non plus.
Ce qui fait le débat, et de toute façon,
le Benoît le faisait aussi. Bon, sans consigne, mais.
Pour gagner du temps. C'était pour gagner du temps.
On peut demander au gardien s'il a eu ce genre de consigne, Benoît. Il fait partie de l'équipe.
Mais c'est vrai que moi aussi, j'en ai connu quelques-uns qui me visaient la poitrine, mais elle passait au-dessus de la tribune.
Ça peut être judicieux sur certaines fins de match. Voilà. Mais par contre, là, dès le coup d'envoi comme ça, dans cette stratégie, sachant qu'on nous dit que c'est volontaire, c'est travaillé, bravo, c'est un coup de génie.
Non, mais après, s'il avait un gardien très doué avec les pieds, peut-être qu'il ferait une autre
Je vais te dire, sans parler de ce fait de jeu-là, et en effet, c'était important de le dire, ça veut dire à quel point il a préparé ce match-là, comme il prépare tous les autres matchs. Moi, tu sais, revenir sur ta question.
Est-ce qu'il te bluffe encore?
Mais en fait, je continue d'être franchement admiratif de tout son travail depuis qu'il est arrivé, depuis le premier jour. En effet, on en fait beaucoup des émissions et Duga est là plus que Benoît. Benoît, il vient d'arriver cette année, mais avec Duga, ça fait 6 ans que j'ai l'émission. C'est la 6e année, donc en effet, on en a fait des débats depuis 3 ans et l'arrivée de Luis Enrique. On n'était pas toujours d'accord. Moi, j'ai toujours été admiratif de cet homme-là, de cet entraîneur-là. Alors après, en effet, ça me donne raison et peut-être que ça aurait pu me donner tort parce que des fois, l'alchimie entre un bon entraîneur et un club, ça se passe pas toujours de la même façon. Là, il s'est avéré que d'entrée, pour moi, il avait totalement le style, la personnalité et le talent pour arriver à se sublimer au Paris Saint-Germain, à sublimer cette équipe, à être totalement accepté des supporters, parce que pour moi, il a tout de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, ce qu'on demande à un entraîneur du Paris Saint-Germain. Il a ce côté un petit peu arrogant, un petit peu beaucoup, même par moment, cette personnalité-là. Et je pense que nous, les Parisiens, on est un peu comme ça et on se retrouve à travers un entraîneur comme ça. Et puis après, il y a ce qu'il met en place sur le terrain. Pour moi, c'est même plus que bluffant, en fait, parce que je suis plus surpris du tout. Moi, je suis amoureux de cet homme-là. Je te jure, franchement, je suis amoureux de cet entraîneur. Pour moi, c'est l'entraîneur génie qu'il fallait au Paris Saint-Germain. Ça veut pas dire que s'il changeait de club, il serait de la même façon, par exemple, à Manchester City ou à Liverpool ou à Real Madrid. Je te dis juste ou au Bayern Munich. Je te dis juste que ce mec-là, il est fait pour entraîner ce PSG-là avec ces moyens-là et surtout ces objectifs-là. Franchement, ce qu'il fait, c'est incroyable. Et je rajoute même à ça que, vu que toutes les planètes sont bien alignées pour lui, il est tombé en plus sur un binôme qui s'appelle Luis Campos, avec qui il s'entend parfaitement. Ils ont appris à se connaître et aujourd'hui, ils fonctionnent main dans la main. Et ça se ressent. On parlait d'ambiance de vestiaire, on parlait d'alchimie dans le groupe, des personnalités qui s'entendent parfaitement. Mieux, le PSG en profite. Et en plus de ça, ils ont la bonne étoile dans le vestiaire, du moins au-dessus du campus, au PSG, au-dessus du Parc des Princes ou sur tous les grands stades d'Europe. Il y a la petite et la bonne étoile qui fait que chaque fait de jeu tourne un petit peu pour eux en Coupe d'Europe depuis maintenant presque 2 ans. Et bien tant mieux. Il y a d'autres équipes, d'autres grands clubs qui en ont profité. Et bien c'est le moment du Paris Saint-Germain. Donc on doit se réjouir de ça. Déjà, nous les amoureux du football français et les amoureux du Paris Saint-Germain, et je me cache pas, je le suis, en effet, mais ce mec-là, il est incroyable. Et moi, j'espère qu'ils vont le garder longtemps, parce qu'il a tout. Et en fait, même s'il y a un échec sur une année, parce que ça peut arriver, il arrivera à trouver des solutions pour faire rebondir ce club-là. J'en suis persuadé. Vous le voyez parler du PSG, il transpire le club. Il est fier d'être entraîneur du Paris Saint-Germain. Mais moi, quelle fierté, moi, en tant que Parisien, vous savez que ce club-là, je le mets toujours en avant. Mais je te jure, j'en ai des frissons quand je le vois, parce que ce mec-là, il a apporté tout ce que moi, j'aurais voulu avoir comme entraîneur quand j'ai été joueur pendant 6 ans au Paris Saint-Germain, d'avoir un mec comme ça qui me fait grimper au rideau et qui me fait progresser et qui fait progresser l'équipe. Lui, il a tout à la perfection du premier jour jusqu'à aujourd'hui. Donc gardez-le.
Bon, t'as eu Vaïd quand même.
Ouais.
Bon. Duga, c'est vrai que.
T'as déjà fait une déclaration comme ça à ta femme, Jérôme ?
Non. Ah, ma femme, je en fais tous les jours.
On a même pas osé t'interrompre.
Bah non, mais là, c'était beau, c'est vrai.
Je en fais tous les jours, ma femme. Alors, la pub, elle est habituée maintenant.
On est sous le choc.
Frissonnette
sous le choc.
Que c'est le charme. Ou... J'ai des frissons, là.
Ouais. Ta gueule.
Duga. sur le match, sur l'aspect tactique, sur l'aspect jeu.
Moi, sur le match. Mais moi, je suis désolé. Alors, je suis d'accord, c'est le plus fort. C'est le meilleur entraîneur au monde. J'ai pas de souci avec ça. C'est le plus grand, le plus fort, le plus beau. Ce qu'il réalise, c'est exceptionnel. Je partage 90% de ce que peut dire Jérôme. Après, moi, je pense que c'est pas non plus rendre service non plus, en ne disant pas que, malgré tout, ils sont plus forts que le Bayern. Ils étaient plus forts. Moi, je pense que sur les deux matchs, la victoire est méritée. Ils ont été plus forts que le Bayern. Donc, pour moi, il y a pas de problème avec ça. Après, Jérôme l'a dit, il y a l'effet de jeu. L'effet de jeu, ils sont malgré tout là. Ils font que la roue tourne. Alors quand on dit ça, ça tourne toujours en leur faveur. On dit provoquer la chance. Qu'est-ce que ça veut dire provoquer la chance? Ce qu'on peut appeler la chance ou les décisions d'arbitre. C'est quand tu joues bien. Quand t'es le meilleur, eh ben, la chance, elle va toujours dans ton camp. Elle va toujours dans ton sens. C'est toujours favorable à toi. Donc ça, ça existe. C'est le débat que j'avais eu la semaine dernière avec Eric où il m'a expliqué que la réussite, la chance, le miracle, ça n'existait pas. Il suffisait juste de bien travailler pour gagner. Ça veut dire que tous ceux qui travaillent mal, c'est parce que, ils gagnent pas parce qu'ils travaillent mal. D'accord, ok, bon, s'ils veulent. Et tous ceux que ça veut dire qu'il y en a qui travaillent bien et personne ne gagne pourtant. C'est, ça choque personne. Bon. Peu importe. Moi, ce que je veux dire, c'est que, moi, sur le match que j'ai vu, moi, c'est mon analyse. Après, on a le droit de pas être d'accord avec moi. Moi, je suis rien du tout. Je suis personne. Voilà. On est bien d'accord avec ça et on est tous d'accord. Moi, sur le match, le Paris Saint-Germain a le mérite d'ouvrir le score très rapidement.
Très vite, ouais, au bout de deux
certainement
minutes.
Voulu. Une façon de voir le football, à se projeter. Le Varadkalia, encore une façon de jouer que l'on a vu, revu et re-revu, qui est maîtrisé totalement dans le dos de l'adversaire, des milieux de terrain, des joueurs de milieu qui partent. Bon, vu, revu, archi-revu. Mais après, m'expliquer que quand ils ont subi par moment les assauts du Bayern, tout ça c'est voulu, tout ça c'est prévu.
Non, ça,
tout
c'est ça pas c'est prévu,
caractérisé.
Ça.
Moi ça, je n'y crois pas.
Ah ben non.
Par contre, je veux mettre en avant le courage des joueurs, l'abnégation, la solidarité, leur façon de défendre qu'ils ont eu, c'était exceptionnel. Ils ont apporté une nouvelle corde à leur arc. Mais m'expliquer que ça, c'était prévu et prédit par Luis Enrique, parce que j'ai l'impression que les joueurs, en gros, ils y sont pour rien, quoi. Tu vois, les joueurs, ils y sont. Tout était prévu. Luis Enrique avait tout dit. Donc tout était
Non, je pense pas que
oui,
les
mais
gens...
au bout d'un moment.
Non.
Oui, ils mais si ça... au bout d'un moment si, parce que quand j'entends Fabrice, quand j'entends au bout d'un moment, oh les gars, les joueurs, ce qu'ils ont fait, moi je pense que les joueurs ils se sont adaptés, je te le dis. Ils se sont adaptés.
Mais moi je pense aussi,
moi je pense que changement du gars.
Voilà. Non, vous pensez pas comme moi, parce que à vous écouter, Luis Enrique a tout fait, tout prévu, tout prédit, tout ci, tout là. Non, je pensais
sur le travail en général, du gars.
Attendez, pas tous en même temps. Oui.
Pas sur le match. Moi, du gars, mon analyse sur Luis Enrique, c'est sur l'ensemble de son travail, l'ensemble de son œuvre. Pas forcément sur ce match-là. Parce que, en effet, que ça soit sur le match aller, je trouve qu'à 5-2, le PSG aurait dû, peut-être s'adapter comme ils l'ont fait, et tu as totalement raison. À Munich. C'est-à-dire, quand tu subis que tu as 30% de la balle, peut-être qu'en effet, d'un moment, tu défends tes deux buts d'avance et tu te dis bah, écoute, tu sais quoi, on va se resserrer, on va se regrouper ensemble, on est très solidaires, on fait des efforts et puis on va les contrer comme ça. C'est une possibilité.
Attends,
et ça, je pense que les joueurs sont.
Comme ça, Jérôme, en jouant si bas, en défendant et en défendant en mode soldat, parce que c'était de vrais soldats sur le terrain, mais ceux qui sont dangereux en contre-attaque, sur des phases de transition. Et Paris est très fort avec le ballon, dans sa circulation du ballon. Mais je les trouve très, très forts aussi, sur tout ce qui est transition.
Ah, bah oui.
Et sur les situations, quand on voit Désiré, etc., ils peuvent être très forts là-dedans aussi. Ils peuvent subir comme ils l'ont fait, maîtriser le ballon. Et...
Mais même Doué, t'as raison, Benoît. Doué, qui est. On peut pas dire qu'il est dans sa meilleure phase. De carrière, de progression comme l'année dernière, tu vois, il est souvent sur courant alternatif. Même on se pose même la question quand il y a le 11 titulaire, savoir s'il va être dans le 11 ou si c'est pas Barcola qui va jouer à sa place. Donc
la série d'arrêts de Neuer, il y en a qui viennent
il a été essentiel sur ce match où il les a fait douter à chaque fois, parce que t'as raison Benoît, quand il a récupéré le ballon plusieurs fois tout seul, il a fait des différences et Neuer a fait 2-3 arrêts impressionnant quand même sur ses frappes.
Bon, Fabrice, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, simplement sur Luis Enrique, là où moi je pense qu'il a été très fort, c'est que ils n'ont cessé de dire, et lui et Vincent Kompany, qu'ils allaient attaquer à pleine balle et qu'ils allaient faire un petit peu comme au match aller, et on s'est vite rendu compte qu'en réalité Vincent Kompany avait prévu ça et que Luis Enrique s'est dit, enfin, il avait aussi envisagé que le Bayern puisse être très dangereux à attaque comme ça, et il avait mis en place une tactique pour pouvoir bien défendre, bien canaliser le Bayern. Et j'ai vraiment l'impression, et c'était la sensation aussi autour du Paris Saint-Germain le soir de la victoire,
qu'ils ont réussi.
Ben, parce qu'ils sont jetés dans la gueule du loup, ils se sont fait contrer sur le premier ballon, comme à Arsenal l'année dernière, comme à Liverpool l'année dernière.
Mais ça n'arrive pas, c'est pas vrai. S'ils ouvrent pas le score au bout de 3 minutes, ça n'arrive pas. Le PSG, ils y vont pour jouer, pour attaquer. Tu crois quoi, qu'ils ont voulu jouer différemment parce que
non, je te dis pas ça, mais je dis simplement qu'ils ont bien pensé la manière de défendre.
Oui.
Bon, après, le match de,
oui, d'accord.
Il y a un symbole, c'est le match de Dembélé. Le match de Dembélé, le sacrifice.
Ça, c'est un symbole. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'à un moment ou un autre, même Luis Enrique, il le dit dans le petit, dans la petite présentation qu'on a eue, là, dans la petite prod qu'il y a au début. Il dit, il faut mettre les joueurs en valeur. Les joueurs, ils sont fiables. Tu peux compter sur eux, ce qu'ils ont donné. T'as pas un milieu de terrain défensif dans cette équipe. T'as pas un milieu de terrain défensif. Le petit Neves, tu l'as vu comment courir, comment il courait. Vitinha, Doué, Varadkar, il y a tous.
C'est des joueurs offensifs exceptionnels. Il y a pas de souci.
C'est des joueurs offensifs qui savent se mettre le cul par terre. Alors bien évidemment que la force de Luis Enrique, c'est qu'il a réussi à les amener avec eux. Mais après, inventer des trucs qui n'existent pas. Excusez-moi, j'ai été sur un terrain pendant 16 ans. Me dire qu'il y a des trucs comme ça. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, Fabrice.
Mais qu'est-ce qu'il te faut pour qu'il croit quand Luis Enrique, on va lui poser la question conférence de presse.
Oui, bah tiens, il sera demain avant.
Non, mais en plus, pour un peu confirmer tes dires, Fabrice, moi, je le sais aussi parce que j'ai eu cette info-là. Ce qu'on a demandé, du moins, ce qu'il a demandé, par exemple, à un mec comme Ousmane Dembélé, qu'on a vu.
Ce qu'il a demandé, Jérôme, après ce que les mecs ils font, c'est autre chose.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai.
Jérôme,
non, mais
les entraîneurs, ils ont tous demander des trucs. Non, mais
ce que je veux dire, c'est que
tu ne crois même pas qu'il a demandé à Safonov de la mettre en touche.
Non,
je crois pas qu'il ait demandé à Safonov de mettre en touche.
Je suis pas là pour vous mettre d'accord. Je dis juste que, en effet, il y a un peu plus de consignes défensives sur ce match, de la part de Luis Enrique. En effet, ça c'est le cas, c'est réel, et ça a été le cas sur des joueurs individuellement, tu vois, du Paris Saint-Germain. Par contre, après, là où je te rejoins, du gars, c'est que quand tu marques aussi vite dans un match, d'accord,
Jérôme, on est d'accord que t'appuies pas sur un bouton.
Mais non, mais c'est pour ça.
Oui,
ce que je veux dire, c'est que
tu veux combattre. Je comprends du gars.
Non, mais en fait, c'est.
Mais nous, on veut pas dévaloriser en posant cette question le niveau des joueurs et la qualité des joueurs.
En fait, c'est pas ça. C'est que
on dit pas que c'est une marionnette. On dit Enrique qui tire des ficelles.
Non, mais on dit juste que quand tu marques vite au bout de deux minutes, comme c'est le cas, ou tu t'attends à prendre la marée. Donc Luis Enrique, la meilleure façon de contrer le Bayern, c'était pas de défendre à 11 derrière, d'accord. Sauf que par moment ils l'ont fait, et ils l'ont fait pourquoi ? Parce que quand tu marques au bout de deux minutes, mais c'est juste psychologique, les gars, parce que nous on l'a vécu. Tu marques, tu calmes les ardeurs de tout le monde. Là, tu prends deux buts d'avance. Automatiquement, qu'est-ce que tu fais ? Tu te recrevilles un peu plus. Et la deuxième mi-temps, quand tu vois comment le Bayern a évolué, a cherché des solutions. Le PSG, ils ont eu 30% de la balle. Ça n'est jamais arrivé en deuxième mi-temps. Mais on s'en fout. Ils ont défendu ensemble. Et je pense pas que la consigne numéro une de Luis Enrique sur la deuxième mi-temps, c'était les gars, on se met tous derrière et on les contre. Mais c'est tellement
psychologique. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que si, imagine si le Bayern, il marque au bout d'une demi-heure de jeu.
Ouais.
Ah ben on rappuie sur le bouton et alors les gars on attaque à fond, on attaque tous ou on continue à rester
mais
derrière.
Non, mais tu as raison. Mais c'est pour ça que je suis d'accord avec toi. C'est le joueur qui s'habitue au scénario du match. Et le joueur à 5-2, les joueurs à 5-2 au match aller, pour moi, il y avait des choses à mettre en place pour pas prendre le troisième et le quatrième but. Bon. Voilà.
Mais s'ils défendent si bien que ça, pourquoi à l'aller ils l'ont pas fait?
Eh ben oui, c'est ce que je te dis. C'est parce que à l'aller, je pense qu'il s'est pas adapté. Luis Enrique et les joueurs ne se sont pas adaptés au scénario. Ils se sont adaptés au scénario quand tu marques au bout de deux minutes.
18h23.
Mais bon, à l'arrivée, on s'est quand même régalé, hein.
Dans Rotten sans flamme. Et le PSG, au final. Supporter du Parisien au 32-16 avec nous, Charles. Salut.
Salut, Charles.
Bonjour.
Salut Charles, bon.
Ouais. C'est animé, vas-y, remets de l'huile sur le feu.
Charles.
Je voulais revenir sur un petit truc sur,
vas-y.
Par rapport à ce que Christophe dit, qu'il ne croit pas une seconde.
Ah, sur Safonov.
Que Safonov, il dégage directement en touche. Moi, je l'ai lu et je l'ai aussi, après coup, bien sûr, interprété sur le fait qu'il voulait que le jeu soit arrêté. Parce que Nuno Mendes, il avait pris le feu par Olise au match aller.
Ah oui.
Et en gros, il a demandé à ce que. Au moins, l'action reparte arrêtée, qu'on ait le temps de se replacer, qu'on ne soit pas pris de vitesse.
Mais donc, tu y crois, toi, cette théorie, effectivement.
Moi, j'y crois quand même.
Safonov directement en touche pour ça.
Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si.
Une fois d'Achille sur 7, il la met directement en touche.
Oui, mais au match aller, Olise, il a fait un grand match. Hein, et pourtant, Safonov, il en mettait aussi. Il en mettait aussi en touche. Hein.
Après,
il n'y a pas de souci. Hein.
On lui posera la question aussi à Luis Enrique. Ouais. Peut-être qu'il acceptera de répondre. Mais bon, il n'aime pas trop donner ses secrets, c'est normal, si c'est un secret.
Celui-là, je ne sais pas si on va lui piquer quand même.
Je ne sais pas, Benoît Costil, c'est peut-être Benoît Costil qui a inspiré Luis Enrique.
Ça lui a arrangé d'avoir un coach qui lui demande de dégager en touche.
Moi, je le faisais, mais quand tu gagnais à l'arrache en fin de match et que tu ne sais plus où donner la tête et que tu disais, je mets le ballon le plus loin possible. Poteau de corner et puis voilà quoi. Non mais après c'est moi j'ai envie de croire en Luis Enrique et au fait qu'il a très très bien préparé ce match et qu'il a très bien analysé certaines choses et je pense qu'il le prépare depuis des semaines et des semaines. Tu vois Beraldo qui rentre en numéro 6, je pense que ce schéma là il l'a déjà en tête depuis longtemps. Il se dit quand on va arriver sur ces matchs là je peux avoir besoin de Beraldo à ce poste là et je pense qu'il l'a mis à ce poste là en amont en championnat. Justement, juste pour ces 10 petites minutes que tu peux avoir.
Benoît, c'est pas Beraldo en numéro 6, c'est pas pour sa meilleure trouvaille.
C'est pas sa meilleure idée.
Comme Zabarni, quand il joue à droite. Alors on peut pas dire que ça soit une grande réussite. Tu vois.
Il le fait plus trop.
Non, mais c'est quand il le met en 6, il met plutôt un cinquième défenseur qui l'aligne.
C'est vrai. On remercie Charles d'être passé au 32-16 comme Charles vous faites au 32-16. Merci beaucoup Fabrice aussi d'être passé.
Merci.
Alors, cette histoire de dégagement, d'ailleurs, on me dit à l'instant qu'ils l'ont travaillé même à l'entraînement. Donc, c'est intéressant.
Ah, ça se travaille, ça, en plus.
Pendant la semaine.
Ah, ben, écoute, je suis
sur les mises en place.
Non, mais je suis désolé.
Mais sur les mises en place, il faut bien le travailler.
Pour dégager en touche.
Apparemment, il y avait Luis Campos et sa garde rapprochée qui était sur le banc. Ils attendaient le ballon sur la tête.
Saint-Fonoff, il met tout dans le terrain, sinon. Donc, faut travailler le ballon.
Luis m'envoie, il me dit, ouais, j'ai fait que des têtes.
Merci Fabrice pour toutes ces infos. Non, mais.
Avec plaisir. Voilà,
merci beaucoup. Dans un instant, le procès de Strasbourg. On va accuser d'avoir raté sa saison.
Moi, je suis prêt à l'accepter à une seule chose. Spatine. C'est qu'on m'explique à quoi ça sert.
Parce que
ça qui est intéressant.
Olysée, qui est bloqué.
Quel rapport entre dégager le ballon en touche avec Olysée?
Parce qu'après, il a le ballon, mais que toi, t'es très haut et t'as une prise à deux sur Olysée.
Il s'empêche Olysée. Donc 7 fois dans le match,
il prend moins
6 fois
vitesse.
Dans le match, il a dégagé en touche, ça a empêché 6 fois Olysée de...
Bon, après Olysée, il est passé à côté de son match, c'est pas que à cause des
le coup de génie de Luis Enrique de dégager en touche, ça a tué le match de Olysée. C'est incroyable.
Dans un instant, on va parler d'autres génies.
C'est un truc de dingue. On me prend pour la peine de 6 jours, je te le dis.
Allez, on revient dans un instant. Rotten sans flamme, ça continue avec le procès de Strasbourg, puisqu'hier, ils ont été
23 semaines.
éliminés. Je vais y arriver.
6 jours, c'est limite.
Éliminés de la Conférence League en demi-finale, accusé de rater sa saison, Strasbourg. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
François Pinet, Jérôme Rotten.
18h31 sur RMC, on est là, on est bien dans la deuxième demi-heure de Rotten sans flamme avec Christophe Dugarry, avec Benoît Costil et avec François Pinet. Dans 15 minutes, François. Oui. Le Allô Jérôme.
On va appeler Madrid parce que ça chauffe évidemment dans le vestiaire du Real Madrid. Un vestiaire au bord de l'implosion. Les dernières infos, des amendes pour Tchouaméni et Valverde. Et puis on parle de plus en plus de José Mourinho.
Il y a eu un mot de Valverde aussi sur ses réseaux sociaux.
Oui, ça aussi.
Il n'y a pas eu de coup reçu.
Aurélien Tchouaméni aussi, je crois.
Bah oui. Ah oui, à l'instant. Oh là là, à l'instant, Benoît. Info Benoît Costil.
C'est étonnant ça.
Par contre, c'est écrit en anglais, je suis dans la merde.
Ah mince. Ah bon, alors on va laisser le temps de traduire et puis on en parle à la
Je t'ai vu la semaine dernière.
Ça te laisse 15 minutes, Benoît. T'inquiète pas pour traduire, pas de problème. On le fera pour toi. On va essayer de trouver un traducteur d'ici là, t'inquiète. Mais d'abord, on va ouvrir les portes du tribunal de Rotten sans flamme.
RMC, Rotten sans flamme.
C'est tellement dommage de faire tant d'efforts, tellement de bons matchs pour arriver en finale et ne pas jouer. Mais c'est rien passé, justement, c'est ça le problème. Le constat, il est terrible et on mérite nos sifflets à la fin. On peut perdre, ça fait partie du jeu. Mais là, aujourd'hui, il n'y a rien eu.
Le procès de Rotten sans flamme.
Non, on s'en souvient, il n'y avait rien.
C'est terrible.
C'est une finale.
Ouais. Tu te souviens plus, Benoît?
Je sais plus.
Ah ouais.
Ouais, je veux plus m'en souvenir.
D'accord, c'est bien.
C'était quoi, Rennes-Guingamp, celle-là?
Ah, c'était Rennes-Guingamp, celle-ci. En même temps, on l'avait pas joué. Mais c'est ça qui est terrible. J'en avais fait deux, les deux, on les a pas joués.
J'étais dans les tribunes en plus, j'avais mis ton maillot et tout. J'avais mis ton maillot, j'avais dit allez Benoît,
C'était 30 000 avec mon maillot.
Perdre contre Noël Le Graët, c'est fou quoi.
Bon, accusé ce soir. Le Racing Club de Strasbourg.
J'ai regardé les dégagements là, de Stéphane.
Non, ça va pas recommencer.
Ça faut neuf au match aller. Il en a mis 7 sur 11 en touche.
Ouais. Donc, bon, il n'a pas été parfait, quoi. Il n'a pas tout mis en touche. C'est ça que tu veux nous dire.
Non.
Il en a raté 4. Il n'a pas réussi à viser la touche sur 4. Bon, il est con, celui-là.
Bon, on précise quand même que nos infos sont toujours très, très bonnes de RMC Sport.
Alors, on est obligé d'y croire systématiquement.
Et on posera la question à Luis Enrique demain. Accusé ce soir.
Le faucon. Je crois tout à part celle-là.
Le Racing Club de Strasbourg, éliminé hier en demi-finale de Conference League, battu à la Méno par le Rayo Vallecano 1-0. Strasbourg, 8e en Ligue 1. Il faudrait donc un miracle maintenant pour qu'ils accrochent une place en Coupe d'Europe la saison prochaine. Strasbourg accusé d'avoir raté sa saison. Les procureurs du soir, Jérôme Rotten, Christophe Dugarry, bonsoir, messieurs.
Bonsoir. À tous.
Avocat de la défense, Maître Costil. Bonsoir.
Bonsoir.
Le verdict, ça sera au 32-16 avec Cyril. Bonsoir Cyril.
Bonsoir, bonjour.
Salut Cyril.
Prépare-toi à quitter le coupable Strasbourg, ça sera dans quelques instants. On va commencer, on va innover, Monsieur Rotten, si vous voulez bien.
Oh, non, des fois on le fait, mais Dugas, ouais.
Allez, on commence par Dugas. Vous trouvez, Monsieur le procureur Dugas, que la saison de Strasbourg est ratée?
Bah, raté, c'est un mot bien dur. Bien sûr, tu peux en sortir du positif et c'est ce que va faire Benoît. Il aura bien raison. Mais moi, disons que cette fin de championnat, cette fin d'aventure en Coupe de France, en Coupe d'Europe et en championnat, elle me laisse un peu sur ma faim parce que je trouve que les Strasbourgeois ont un peu pris le boulard, voilà, sur ces matchs qui ont compté, qui auraient pu faire qu'ils auraient atteint des choses incroyables, c'est-à-dire l'année prochaine rejouer la Coupe d'Europe en étant mieux que 8e, en faisant une finale de Coupe de France et peut-être la gagner, ou en gagnant une Coupe d'Europe. Ça aurait pu être possible s'ils avaient fait preuve à mon avis d'un petit peu plus d'humilité, et j'ai senti à travers leur déclaration, et notamment une où il y a très peu de temps là, où ils ont dit on assume de vouloir jouer à fond la Ligue Europa et de se fixer comme objectif la seule la Ligue Conférence, pardon. Donc écoute, moi j'ai senti qu'ils avaient attrapé le boulard, qu'ils étaient suffisants, ils ont une équipe suffisamment jeune qui a vécu tellement peu de choses que arriver à un âge d'une équipe aussi jeune, me dire que tu choisis tes matchs, moi ça m'a rapidement énervé ça. C'est-à-dire quand t'as la chance de pouvoir être présent dans 3 compétitions et d'être performant dans 3 compétitions, tu les joues à fond, tu commences pas à calculer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On va réfléchir, on va se donner un objectif, Non, t'es jeune, profite-en pour jouer, profite-en pour courir. J'ai trouvé que des attitudes étaient détestables. J'ai pas aimé non plus ce qui s'est passé avec leur capitaine là.
Voilà,
à la fin avec Emma. Voilà, qui nous arrive.
Les lunettes de soleil des méga, t'as.
Voilà, magnifique. Avec les lunettes de soleil, le mec à 23h, bien évidemment qu'à la méno, il y a un soleil terrible à 23h, il fallait mettre les lunettes de soleil. Des supporters qui attendaient ça avec impatience, qui ont déjà les boules.
Parce que championnat, Christophe, là-bas, à la méno.
Parce que déjà, en championnat, ils ont les boules. Parce que déjà, vous auriez dû faire une bien meilleure saison que celle que vous avez faite. En Coupe de France, ils ont senti que vous aviez un petit peu lâché parce que la priorité, c'était la Coupe d'Europe. Et la Coupe d'Europe, vous faites taper sur les deux matchs. Voilà. Donc, au bout d'un moment, Je trouve qu'ils auraient pu faire les choses différemment et montrer un petit peu plus d'enthousiasme, de volonté de se battre sur toutes les compétitions. Là, j'ai trouvé qu'ils ont fait preuve de suffisance et qu'ils ont attrapé un petit peu le boulard, ces jeunes Strasbourgeois.
Jérôme.
Ouais, ben moi je suis totalement d'accord avec Dugas sur le fait que.
Mais il dit pas rater la saison. Est-ce que la saison est ratée pour Strasbourg?
Écoute, c'est factuel. Aujourd'hui, tu regardes. Alors, il y a un côté, les émotions. Alors, si tu dis qu'il y a eu des émotions et que les supporters de Strasbourg, et on va faire parler tout à l'heure notre juge, si tu dis que les supporters ont eu des émotions ou pas, oui, ils en ont eu cette année. Il y a eu des bons matchs à la Méno. Moi, je retire pas un mot sur tout ce que j'ai dit de très bien sur Strasbourg, sur la première partie de saison et sur même quelques matchs depuis la phase retour et depuis l'arrivée de Gary O'Neill à la Méno surtout, où à la Méno, ils ont réalisé des très bons matchs. Ils ont perturbé des grandes équipes. Et pour moi, je le disais, quand ils sont tournés vers l'avant et surtout sur la première partie de saison avec Rossignol, je trouve que Strasbourg était une équipe à domicile niveau Ligue des Champions. Après, une fois que tu as dit ça, on sait aussi que le mois de mars, avril, mai, c'est là que ça se gagne. Et c'est là que tu bonifies ta saison ou pas. Mais à l'arrivée, depuis que Rossignol est parti. Gary O'Neill, je trouve qu'il a jamais trouvé la régularité que Rossignol avait mis en place. Il a fait des choix aussi dans l'équipe avec des joueurs qui, certains joueurs qui sont pas mal, qui jouent moins. Mais c'est ses choix, c'est sa patte. Le problème, c'est que ça s'avère pas payant. Et que, en plus de ça, là où je lui en veux plus à lui qu'à certains joueurs, c'est que quand tu tiens un discours, après t'être fait éliminer piteusement contre Nice à domicile en demi-finale de la Coupe de France, comme l'a dit Duga tout à l'heure, déjà, c'était un objectif. Il est passé à la trappe. À la Méno, chez toi, tu reçois une équipe qui va peut-être faire le barrage pour pas descendre en Ligue 2, tu vois. Donc, normalement, tu dois gagner à domicile. En plus, tu t'offres une finale. Il passe à côté une première fois. Après, là, je parle même pas des deux matchs contre le Rayo Vallecano, parce que franchement, c'est il faut se mouiller la nuque quand on voit le si peu d'engagement, peut-être les mecs qui se sont enflammés, tout ça. Mais Gary O'Neill, quand il te tient après Nice le discours en disant la saison est déjà réussie, mais rien que cette phrase-là, à la fin de l'année, tu le fous dehors, lui, Gary O'Neill. Non, mais il a rien à faire dans un club qui avait... Là, peut-être l'occasion de faire deux finales de coupe, et à l'arrivée, ils en font aucune des deux, et ils vont finir peut-être huitième ou neuvième du championnat. Allez. Et vous allez me dire qu'avec les moyens de Strasbourg, huitième ou neuvième du championnat, et faire une demi-finale de Coupe de France, c'est magnifique.
C'est à Benoît Costil, avocat de la défense, qui va peut-être te dire ça, Jérôme. Ouais, mais qu'est-ce qu'il veut qu'il me dise. Il a peut-être des circonstances atténuantes côté Strasbourg.
Mais je pense qu'on peut se rejoindre sur plein de points. On peut se rejoindre sur plein de points. Moi, ce que j'ai aimé, c'est Strasbourg cette année, c'est au niveau du jeu, du football qu'ils ont pu produire avec Liam Rossignol notamment. Ça fait partie avec Lyon des deux équipes qui m'ont emballé sur les premiers mois de la saison. Donc là-dessus, quand tu fais après demi-finale de Coupe de France contre Nice, demi-finale de Ligue Conférence, tu es huitième en Ligue 1, la frustration, ok, je pense, moi j'avais misé sur un top 6 pour Strasbourg cette année, ils vont finir huitième. Après, malgré tout, tu es quand même demi-finaliste de deux coupes. Même si dans ces deux coupes, quand tu regardes ce qu'il y a autoir de toi, tu dois avoir l'ambition et peux avoir l'ambition de les gagner. Maintenant, est-ce que la saison elle est ratée? Je dirais non. La saison, par contre, ça peut être la saison de la frustration, avec plein de choses qui sont à prendre en considération sur tes matchs, sur tes mois décisifs en fin de saison. Jérôme en a parlé. Mais t'as un Manuel Emega qui est à 50%, qui revient de blessure, qui a été qu'à moitié là cette saison et qui a été le sujet de beaucoup de discussions sur cette année avec son transfert annoncé à Chelsea, etc. Tu as eu Panicelli que tu peux pas compter, sur qui tu peux pas compter sur les dernières semaines, et mine de rien, c'est un élément important. Et hier, quand tu regardes la composition de départ, t'as ni Emega ni Panicelli. Donc c'est quand même compliqué pour Strasbourg. Donc je dirais pas que c'est une saison ratée. Par contre, c'est une saison de vraie frustration, parce qu'à mon sens, c'était très très proche d'un grand succès, et d'un grand succès qu'ils auraient mérité à mes yeux, pour m'avoir, parce que voilà, j'aime beaucoup la trajectoire que prend Strasbourg en termes de football sur les dernières années.
Belle plaidoirie de Benoît Costil. Cyril va trancher ce procès, le procès de Strasbourg accusé d'avoir raté sa saison. Supporter strasbourgeois, Cyril, au 32-16.
Merci Cyril.
Bonjour de rien, merci à vous. Moi je suis 100% Jérôme Roten et Christophe Dugarry, moi j'ai tout ça à dire. Déjà, je vais revenir un peu sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est passé avec les mégas. C'est pas les joueurs qui étaient visés, hein. C'était bien lui. Quand tu viens, que tu te prends pour une vedette d'un clip de rap, c'est un guignol. Enfin bon, j'ai même pas envie d'en parler. Mais en fait, le projet, c'est pas qu'il est réussi ou pas réussi, il faut revenir à ce qui a été dit au tout début du projet quand Marc Keller a pris Equali a pris le club. Il nous a dit, tous les ans, c'était vital pour le club de jouer la Coupe d'Europe. Ouais. L'année prochaine, il n'y aura rien. Le bilan de Blocos, c'est 13e, 7e, 8e. Il n'y a pas une fois une place en Europe par le championnat. Il faut qu'on dépende, encore une fois, toujours et encore des autres. Cette année, il n'y aura rien l'année prochaine. L'équipe, elle va sauter à moitié. On a balancé 110 millions. J'avais parlé avec François Pinet en tout début d'année, avant Strasbourg-Metz. Il m'avait
excellent
dit,
journaliste. Je sais pas qui
à quelle place finirait Strasbourg. J'ai dit normalement l'investissement t'oblige à faire top 4 quand tu mets 110 millions, mais la vérité c'est qu'on fera entre 8 et 10e parce que c'est trop jeune, il n'y a pas d'expérience.
Et lui il disait quoi,
de la merde. Des joueurs méconnus, mais bien sûr, on va chercher des joueurs méconnus.
Bah, des joueurs méconnus, mais qui ont brillé. Barco, Panicelli.
Moi, il y a un truc.
C'est des super joueurs.
Après, François Pinet, il parle foot avec Francis Lalanne.
Benders, le gardien. Oui, ça, c'était dans une autre vie, Jérôme.
Il y a un truc, moi, qui m'énerve.
Plusieurs vies. Ouais, vas-y, Cyril.
Il y a un truc qui, moi, m'énerve, c'est quand on me dit, sans Blocco, on n'aurait jamais eu ces joueurs-là. C'est pas vrai. Avant Blocco, on avait déjà des bons joueurs de foot. On a même eu des tocards et on arrive à faire des bons joueurs de foot. on a fait des saisons, on était en Coupe d'Europe avec Dimitri Renard, on s'est fait sortir parce que c'était pas les réformes aujourd'hui, il y avait pas de Conference League, on s'est fait sortir par des Francfort, on a gagné des trophées, et on a fait sixième avec Julien Stéphan. J'ai vu du football cette année, j'ai rien vu. Je vois des mecs qui ont des boulards, et depuis hier, il y a deux personnes qui s'en sortent bien, c'est Marc Keller et Bedad Ekbali. Ils ont fait n'importe quoi. On s'est pas renforcé au mercato hivernal, on a plus de neuf, on a des joueurs, ils sont déjà à la tête à des contrats ailleurs. Enfin, moi, à un moment donné, c'est pas une saison ratée ou réussie, c'est un échec commercial.
Ouais. Ok, Cyril, voilà. Écoute,
Cyril,
victoire de cas, Jérôme et de Dugas sur la saison ratée.
500 ans aussi, hein.
Il s'est bien défendu, Benoît.
Ouais.
Et bravo, Benoît. Effectivement, voilà, cette image des mégas va rester avec ses lunettes de soleil à la méno, sifflée par le public de la méno.
Celle-là, tu
imagines. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, je pense que Diego Moreira, il lui dit à un moment donné.
Non, mais.
Quand il avance, Diego Moreira le chope, il dit, par contre, enlève tes lunettes.
Tu vois qu'il
enlève tes lunettes. Oui, il les enlève
après. Non, mais. Et surtout, je vais te dire, tu sais, le diffuseur, c'était Canal. Donc ils étaient sur place. Heureusement qu'il y en a qui ont dit mais c'est pas possible de le voir. Mais t'imagines qu'il y a quand même des consultants, donc des anciens joueurs ou joueuses qui étaient sur place et qui ont réussi à lui trouver des circonstances atténuantes. Mais comment tu peux arriver avec des lunettes de soleil comme ça en te prenant pour la star que t'es pas, tu vois, d'accord ? Non mais sans déconner, mais les gars,
c'est parce que c'est la nouvelle façon de commenter, c'est les commentaires positifs, tu sais,
positifs. Ah d'accord,
t'as pas lu maintenant on
fait c'est vrai,
positif.
C'est vrai.
C'est sympa, faut dire que ce qui est bien.
C'est vrai.
Mal, il faut pas le dire. On relève que ce que les joueurs font de bien. Tout ce qu'ils font de mal, il faut pas le dire. C'est génial.
Ouais. Bon bah nous on embrasse Ligue 1 plus parce qu'on a le droit à ça tous les week-ends.
On dit ce qu'on veut.
Non mais Ligue 1 plus et les autres parce que maintenant comme ils payent cher, j'en sais rien. Forcément, il vaut mieux dire du bien que du mal.
C'est clair.
Ce qui est terrible, c'est que les joueurs allaient se faire applaudir et la présence des mégas.
C'est ce que nous a expliqué Cyril, effectivement, à l'instant.
Il aura niqué la collation.
Bon, c'est vrai en plus.
Bon, merci beaucoup à tous. On va continuer, bien sûr, Rotten sans flamme. Merci à Cyril d'être passé au 32-16. Vous faites comme lui.
On file en Espagne.
On file en Espagne. Exactement. Dans un instant, des infos toutes fraîches du vestiaire du Real.
Tapez fort.
Et le nom de José Mourinho revient avec insistance. On a parlé avec Edgar Grolot tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
François Pinet, Jérôme Roten.
18h49 sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme, on continue l'émission, on finit la première heure surtout avec direction l'Espagne et Edgar Grolot qui s'invite comme tous les jours.
Tous les jours vous voir. Ouais. En ce moment il y a de l'actu en même temps en Espagne.
En plus il y a beaucoup d'actu. On est avec François Pinet, avec Zlatan Ibrahimovic,
Christophe Dugas, c'est un peu Zlatan de l'époque, et
Benoît Cossil. Pourquoi je vous dis Zlatan Ibrahimovic, Benoît et Dugas, c'est parce que on fait légende, pas légende, dans un podcast, et on parlait de Zlatan Ibrahimovic. Voilà. Est-ce que c'est une légende ou pas une légende du football?
On vous dit rien, faut retrouver le podcast. Voilà, allez-y. On parlera aussi évidemment de la course à l'Europe dans le multiplex de Rotten sans flamme à partir de 19h. On sera à Lens, on parlera de Lille, de Lyon, de Monaco, de Nice également, qui est un match décisif pour le maintien contre Auxerre. Mais tout de suite, direction l'Espagne, effectivement.
RMC, Rotten sans flamme.
I'm sorry, I'm a bit arrogant. We have a top manager. Please don't call me arrogant because what I'm saying is true. I'm European champion. I think I'm a special one.
Allô, Jérôme.
Edgar Grolot est avec nous en direct de Madrid, the special one. Salut, Edgar.
Salut François, salut Benoît.
Alors,
salut Edgar.
On a appris aujourd'hui la sanction pour les joueurs du Real, Tchouaméni, Jérôme, Valverde.
Plutôt que Benoît.
500 000 euros d'amende chacun. Voilà, 500 000 euros d'amende chacun pour Tchouaméni et Valverde. Ils ont exprimé leurs regrets sincères, se sont présentés aussi leurs excuses mutuellement, d'après le communiqué du Real. Mais toi, tu voulais nous voir, Edgar, parce que c'est vrai qu'il y a un nom dans ce contexte qui revient de plus en plus fréquemment et de plus en plus souvent, c'est le nom de José Mourinho. Voilà.
Oui, aujourd'hui c'est le nom qui revient le plus souvent. Il y aurait des discussions entre les deux camps, et c'est le favori aujourd'hui pour reprendre la tête du Real Madrid. Maintenant, ce nom-là, alors est-ce que c'est surprenant de le voir apparaître, surtout dans ces conditions? Non, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui a l'habitude de venir aussi dans des situations de crise et qui est peut-être capable de faire le ménage. Mais de voir arriver José Mourinho, je pense que ce serait quand même, quand tu dézoomes un peu, l'échec total de la gestion sportive de la direction sur les dernières années. Parce que quand tu prends un peu le contexte, il y a 2 ans, il sortait d'une saison champion d'Europe, champion d'Espagne avec 95 points. Il recrutait Kylian Mbappé, qui était l'un des meilleurs joueurs du monde, pour essayer de créer un nouveau projet et de partir sur une nouvelle ère. Bon, la première année, ça marche pas très bien. Donc, il recrute Xabi Alonso, l'un des entraîneurs les plus en vogue du monde, un entraîneur jeune, à la mode, qui a des idées. Sauf que Xabi Alonso, ils l'ont jamais laissé, et ça c'est la faute de la direction, ils l'ont jamais laissé vraiment créer son projet, ils l'ont jamais vraiment soutenu dans les moments importants. Ils ont donné raison plutôt aux joueurs et surtout aux joueurs qui n'étaient pas contents avec lui. Et donc, deux ans après
Vinicius Mbappé,
saison,
quoi.
Ouais, voilà. Et non mais deux ans après une saison où tu finis en ayant tout gagné et en étant au summum et où tu recrutes l'un des meilleurs joueurs du monde, tu te retrouves à devoir sortir l'extincteur, celui où au-dessus il y a écrit à n'utiliser qu'en cas d'urgence, c'est José Mourinho, pour éteindre le feu. Mais comment tu peux arriver à cette situation-là alors que il y a tellement de choses qui allaient bien il y a si peu de temps? Et ça, pour moi, c'est vraiment l'échec de la direction, Jérôme.
Symbole, voilà, de l'échec de la direction. Pensez à José Mourinho là pour sauver ce qu'il reste à sauver, pour remettre de l'ordre dans le vestiaire.
Ouais, bon, ça veut dire que le mal, il est vraiment profond. C'est que là, il s'occupe même plus de savoir si tactiquement la philosophie, le profil d'équipe, ce qu'il veut mettre en place pour que les gens apprécient de nouveau le Real Madrid et de venir à Santiago Bernabéu et prendre du plaisir. En effet, il y a un gros problème de vestiaire, de toute façon. Alors après, des bagarres, on en a parlé hier, hein, déjà, pas du gars et Benoît, mais des bagarres, on en a tous connu. Après, des bagarres comme ça, en plus, là, ce que j'aime pas dans cette façon de faire, c'est que, bien sûr que les joueurs sont obligés, si tu veux, après ce qu'ils ont fait, de mettre un message d'excuse et d'expliquer plus ou moins ce qui est sorti, en disant non, il n'y a pas eu de coup, il n'y a pas eu de ceci, cela. Oui, tu...
Alors,
il
y a pas. Verdel était assez vite quand même, pour le dire.
Déjà, il a été assez vite pour le dire et surtout, ils prennent 500 000 euros d'amende, les deux. Et sans mettre de coup. C'est fou quand même, c'est très cher.
Il y a un traumatisme crânien.
Ouais, et puis s'il y avait eu des coups, alors. Ça aurait été combien en fait? Non, mais franchement, il nous.
Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il a eu le traumatisme en tombant.
Ah ça, non, c'est une réalité. Ça, mais c'est ce que tu disais, Edgar. T'as pas rajouté. T'as pas dit que c'était un coup de Tchouaméni où il avait perdu connaissance. Mais n'empêche que. En arriver à ces dégâts-là, si tu veux, dans le vestiaire, ça veut dire beaucoup. Du moins, ces joueurs-là, ils peuvent pas continuer ensemble.
Ah, Jérôme, il y a aussi le joueur, le profil du joueur, hein. Parce qu'un Aurélien Tchouaméni, pour bien le connaître, faut y aller quand même, hein. Pour le chauffer, faut y aller. C'est un mec qui a une très très bonne éducation, qui est un mec qui est très calme, qui est pas dans les embrouilles, qui est pas dans les histoires. Il a son caractère, il a son charisme naturel, mais il est pas du tout dans ces embrouilles-là. Hein. Donc s'il en est arrivé là, c'est que le mec il a dû aller chercher quand même. Je veux pas défendre Aurélien coûte que coûte.
Non mais tu le connais,
parce que je connais
toi,
pas l'histoire. Mais par contre, pour le connaître, c'est vraiment un bon mec et faut vraiment le pousser très très loin pour qu'il en arrive là.
Non mais excusez-moi de revenir au sujet les garçons, mais bon là où je suis inquiet pour le Real Madrid et ça me rassure
c'est
pas
Mourinho.
Tu penses à Mourinho quoi. Voilà Mourinho, sincèrement Mourinho. Alors là où on parle du meilleur entraîneur du monde il y a une demi-heure et là on me met Mourinho qui alors quand t'as envie d'aplanir une situation, de pacifier un vestiaire, de machin, tu prends pas Mourinho. Mourinho c'est lui qui met les bombes.
Ouais. Ah bah après c'est pas pour forcément pacifier le vestiaire mais pour mettre les joueurs
mettre
à l'endroit quoi.
Mais les dernières
pour
équipes où il a entraîné, il a fait quoi? Il a trouvé quoi comme idée? Il a trouvé quoi comme là où le football évolue? On a vu un football total avec Compagny, avec Enrique, avec la nouvelle génération là qui tente des choses et tout ça. Mourinho, c'est aujourd'hui le Real Madrid. Tu penses à Mourinho? Enfin bon, déjà pense peut-être à Deschamps. J'en sais rien moi.
Ils ont
pas contacté Deschamps?
Si, ils y pensent.
Bah, il était sur la shortlist.
Il est parmi les profils qui plaisent au Real Madrid. Mais aujourd'hui c'est pas le favori.
Mourinho, il a été au Real Madrid. Mourinho, il a créé que le bazar au Real Madrid. Il a créé que des problèmes.
En 3 ans, 2010-2013.
Il a gagné combien de titres, Mourinho, au Real?
Mourinho, il a pas gagné. Il a pas gagné de Liga, il me semble, avec son équipe.
Alors, je vais vous dire.
Non, c'est la Ligue
suite.
Des Champions qu'il
en
a
plus,
pas
il
gagné.
Il va poser des exigences et tout. Il va se prendre encore. Il va être.
Il a gagné une Liga. Une Liga. José Mourinho avec le Real, mais il a pas gagné la Ligue des Champions.
Non. Eh oui, c'est ça. C'est pour ça. Donc, c'est vrai que c'est
une Liga et une Coupe d'Espagne.
Ouais, c'est un peu faiblard en 3 ans. Quand même. Quand tu t'appelles le Real, c'est un peu faiblard. Mais n'empêche que.
Et puis c'était il y a 13 ans.
Peu importe. Après
c'est à Madrid et c'est ça qui est important aussi. C'est aussi celui qui a redonné un petit peu de fierté aux supporters et aux clubs dans une époque où ils étaient surdominés par le Barça. Et c'est, même s'il a pas gagné avec des champions, encore vu aujourd'hui comme l'un de ceux qui a posé la première pierre.
Je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui
avant d'arriver à la décima, etc.
Ouais. Non, mais là tu parles de fierté. Je l'entends. C'était il y a 13 ans. Aujourd'hui, les supporters ils sont en recherche d'un football. Aujourd'hui, quand tu as vu l'affiche du Bayern face au Paris Saint-Germain, voilà, les supporters aujourd'hui veulent des entraîneurs qui jouent au football. Bah, crois pas qu'ils... Voilà, des mecs qui te ramènent la fierté, qui te ramènent le courage, qui te ramènent les coronets. Excuse-moi, mais ça c'était un football de notre époque, quoi. À un moment, je crois que le football il a évolué. Il y a certaines équipes, pas encore assez, mais qui a envie de proposer une façon de jouer au football, c'est la course à suivre. C'est pas le football encore, de Mourinho, quoi.
Moi, je suis d'accord avec toi, Duga, là-dessus. Le problème, c'est que t'as un président qui laisse pas la chance au produit de ce côté-là. Du moins, Xabi Alonso était totalement là-dedans quand il est arrivé. Avec Leverkusen, il avait fait des choses incroyables. D'accord, on est.
Il lui a pas laissé le
temps. Déjà, à mon avis, pas trop le choix dans le recrutement parce qu'ils ont tout mis sur Kylian Mbappé et ça les a empêchés de recruter un peu. Même s'ils ont mis de l'argent, attention, sur des joueurs très moyens, des jeunes très moyens. Et on le dit souvent, Duga et Benoît, l'effectif aujourd'hui, franchement,
faut construire.
Tu peux me ramener qui tu veux. Si tu ramènes pas un peu plus de technique dans le milieu de terrain déjà. Je vois pas où tu vas venir.
L'entraîneur est lavé, Jérôme. Hein? L'entraîneur est lavé. C'est juste qu'il fallait lui laisser du temps avec Xabi Alonso.
Oui, c'est ça. Non, mais il n'avait pas les joueurs. Il n'avait pas les joueurs.
Voilà. Bon. Là, si tu pars avec un Mourinho, c'est les opposés, hein.
Il avait les joueurs. Il avait les joueurs, Xabi Alonso. Il a tenté des choix. Il a tenté.
Xabi Alonso a fait des erreurs aussi.
Oui. Voilà, il a fait des erreurs, bien évidemment. Mais Vinicius a commencé à râler, commencé à se plaindre, avec des attitudes aussi. Et là, il aurait fallu justement que le club défende son entraîneur et donne le pouvoir à l'entraîneur et pas aux joueurs.
Et ça n'a pas été le cas.
Alors, on suit ça, bien sûr, avec toi, Edgar. L'avenir du Real Madrid. L'avenir proche, c'est ce dimanche, puisqu'il y a Barcelone, Real Madrid, 21h.
Pour le titre de Barcelone.
Alors, peut-être que ça sera une humiliation supplémentaire pour le Real. On verra si Mbappé
peut faire une sacrée semaine quand même.
Peut jouer cette rencontre. Les infos, ça sera sur rmcsport.fr et tout le week-end pour cette rencontre. Le Classico Barça-Real, 21h dimanche. Merci beaucoup Edgar. Dans un instant, le multiplex de Rotten sans flamme. C'est tout de suite sur RMC, le moment très très attendu avant l'avant-dernière journée de Ligue 1. C'est dans un instant, à tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Vous avez aimé la première partie ? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Rotten sans flamme.